Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Sont pas moins essentiels. Alors, la première de ces conditions devrait être la reconnaissance par la Palestine de la légitimité de l'État d'Israël et de son droit à exister en tant qu'État du peuple juif. Cette reconnaissance se déduit du plan de partage de la Palestine mandataire entre deux États, un État arabe et un État juif. Ce projet fut à l'époque, on parle donc de 1948, refusé par les partis arabes, 47 et 48. Ce projet fut à l'époque refusé par les partis arabes. Si ce conflit se réduisait à l'affrontement de deux projets nationaux pour une même terre, les choses seraient simples. Les dernières déclarations du président de l'autorité palestinienne ou celles de ses ministres laissent penser qu'il n'en est rien et que la concurrence que se livrent le Fatah et le Hamas induit une surenchère extrémiste. Mais la Palestine est sortie de ses frontières avec l'islamisation de la revendication palestinienne. Quitter le champ du politique pour celui du religieux fait de la Palestine la cause sacrée de la Oumma, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans. Et en s'unissant au Hamas, l'autorité palestinienne fait cause commune avec un parti dont l'âme du projet réside dans l'anéantissement d'Israël. Le Hamas a-t-il déclaré caduque sa charte? A-t-il abrogé les articles qui recommandent la mise à mort de tout juif comme un devoir sacré pour tout musulman? Reconnaît-il le droit d'Israël? Accepterait-il de signer la paix avec Israël? Comment un gouvernement d'union peut-il prétendre vouloir la paix avec Israël alors que son nouveau partenaire fait de la destruction d'Israël et du meurtre des juifs le cœur de son projet? Comment signer un accord avec celui qui dénie votre droit à être pour ce que vous êtes? La seconde condition d'une reconnaissance de la Palestine par les Européens se déduit de la première. Elle formulerait une exigence, celle de l'engagement de la partie palestinienne à changer de discours et en particulier à éduquer à la paix. Il ne saurait y avoir de paix tant qu'Israël sera présenté dans les manuels scolaires palestiniens comme la cause maléfique du malheur arabe. Tel est le cœur du problème. Tant que du côté arabe, il n'y aura pas eu de réforme de cet élément structurel dans la mécanique psychique arabe, imaginer une paix figurera au rayon des utopies. D'autre part, Jacques Ternero constate que côté israélien, c'est un autre enfermement qui menace. La majorité politique pilotée par Netanyahou ne semble pas prolixe en gestes généreux ni en imagination prospective. Il est prisonnier de ses extrêmes et la coalition au pouvoir semble incapable de proposer une perspective d'avenir. Ce statu quo alimente toutes les exaspérations, tandis que se développe en Israël une frange extrémiste d'illuminés dangereux pour la démocratie. La nébuleuse irresponsable du prix à payer est un poison pour la société israélienne. Ce même fanatisme a déjà inspiré le bras meurtrier de Yigal Amir, l'assassin de Yitzhak Rabin, en novembre 1995, ou celui de Baruch Goldstein à Hebron un an plus tôt. L'assassinat de ce jeune palestinien brûlé juif en vengeance des assassinats des trois adolescents juifs en juin dernier témoigne de cette pente dangereuse. Aujourd'hui, les enjeux pour le devenir d'Israël en tant qu'État pour le peuple juif se posent en termes simples et évidents. Sauf à rêver d'un départ volontaire, d'une évaporation des populations arabes palestiniennes vivant à l'intérieur des frontières d'Israël, autant que dans les territoires conquis en 1967, Israël verrait son identité juive transformée au profit d'un État binational, judéo-arabe, par le maintien de ses populations à l'intérieur de ses frontières. Et cette perspective signifierait la fin du projet sioniste et la fin de l'État du peuple juif. Certains pourront argumenter que le déni du caractère juif de la Judée ou de la Samarie est contraire aux fondamentaux de l'histoire juive. Personne ne peut nier l'étymologie juive de la Judée, en effet. Mais la politique doit aussi pouvoir s'émanciper de ses mythes fondateurs et se soumettre à d'autres principes, en particulier au principe de la réalité. Le pragmatisme dont firent preuve les fondateurs d'Israël a permis la naissance de l'État, son existence et son épanouissement actuel. Et sauf à être un fétichiste de la terre, comment estimer que l'intérêt d'Israël puisse être la conservation de territoires où il est démographiquement minoritaire? L'immobilisme israélien joue aujourd'hui contre l'intérêt d'Israël. Et c'est être autiste que de ne pas le constater. La politique du statu quo de la majorité conduite par Netanyahou conduit à une impasse dont les effets se mesurent chaque jour. Israël perd ses meilleurs soutiens, et c'est une aubaine pour les Européens de pouvoir se décharger de leur part de responsabilité, sinon de leur culpabilité, en faisant d'Israël le responsable de cette crise sans fin. L'auteur constate enfin que de leur côté, les Européens estiment que les tensions actuelles, les menaces djihadistes dont eux-mêmes sont l'objet à l'intérieur de leurs frontières, se réduiront avec la reconnaissance de la Palestine. Ils cultivent là des illusions. Le djihadisme vise autant les croisés, les mécréants, et pas seulement l'entité sioniste comme ils nomment Israël. Les Européens devraient simultanément comprendre que ce qui menace Israël les menace aussi. Israël constitue la première ligne de front face à l'islamisme conquérant. L'intérêt de l'Europe n'est donc pas d'affaiblir Israël, mais bien au contraire, de le soutenir avec intelligence. Je terminerai en citant la phrase qui conclut fort justement son article. Le courage en politique ne consiste pas à se coucher sous les vents idéologiques dominants, mais à affronter le réel en face, tel qu'il est, même si ce réel ne correspond pas à ce que nous souhaiterions qu'il soit. Thank you.